Alors, c'est vrai, on s'est arrêté au verset 14, hein.
Ouais.
C'était ça. Et puis, donc, verset 15. Donc, juste un rappel de la structure. Le deuxième chapitre, il est vraiment axé sur les faux docteurs, hein. C'est le thème central de ce deuxième chapitre. Et puis, dans le passage à partir du verset 10 jusqu'au verset 19, on a des caractéristiques des faux docteurs. Hein, il nous a donné quelques caractéristiques. Et puis, les versets ensuite, les suivants, les 20 et 22 jusqu'à donc à la fin du chapitre, le danger de s'éloigner de la vérité. Donc, au verset 15, après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bozor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression. Une ânesse muette faisant entendre une voix d'homme arrêta la démence du prophète. Vous connaissez cette histoire, hein, ce prophète qui, en fait, pour un salaire, il savait que ce qu'il faisait, c'était mal. Mais en fait, ce qui l'intéressait, c'était
C'était
l'argent. Donc, c'est un peu comme ces faux docteurs. Il y en a, voilà, hein, peut-être pas tous. Hein, certains sont peut-être pas conscients qu'ils sont vraiment complètement à côté de la vérité. Mais d'autres, ils le font
intérêt,
pas du,
avidité.
voilà, c'est ça, pas du gain. Hein, et puis, y a rien qui peut les arrêter alors qu'ils ont connaissance des Écritures. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, là je continue au verset 17, des nuées qui chassent un tourbillon, l'obscurité des ténèbres leur est réservée. On avait vu la dernière fois le combat spirituel, un peu la chronologie aussi, hein, de ce qu'on pouvait faire aujourd'hui, puis de ce qu'on pouvait pas faire. Et puis qu'il semblait justement que ces faux docteurs, ils avaient une autorité, ils pouvaient vous transformer un pays qu'au travers d'une seule prière. Hein. Puis on avait vu que ce serait qu'à la fin des temps que la mort serait vaincue, hein, tout à la fin du millénium. On avait vu que, en fait, c'est avec le retour de Jésus-Christ que les puissances des ténèbres seront liées. Et on peut penser à tous ces passages où il nous est parlé des puissances, des autorités, des dominations. En fait, ces puissances-là, aujourd'hui, on n'a pas autorité dessus parce que le prince de ce monde, ça reste le diable. Hein. On a un royaume qui est spirituel, c'est-à-dire au travers de la repentance, au travers de l'action du Saint-Esprit qui va toucher les cœurs, mais on ne va pas pouvoir amener comme ça au travers d'une prière. Une transformation complète d'une nation, parce que enfin un apôtre aurait l'autorité pour ça, et puis pour permettre une avancée spirituelle extraordinaire en deux temps, trois mouvements. Hein. Bien sûr, on croit au réveil, bien sûr, on croit à la puissance du Saint-Esprit, bien sûr, on est certain que Dieu il peut toucher les cœurs, mais en fait, dans la sagesse de Dieu, et on a peu d'informations sur ces puissances-là. Dieu a laissé à ce monde actuel le pouvoir au diable, et puis le diable il a mis des puissances et des autorités qui ont des autorités sur des territoires, hein. Et puis en fait ces puissances-là, on va pas pouvoir les détrôner comme ça, hein. Il faut Il y a simplement que le Seigneur qui pourra faire ceci en son temps. On avait vu un jury et les gloires, hein, tandis que les anges supérieurs en force et en puissance, à ce verset 13, ne portent pas contre elle de jugement injurieux. Donc, ce verset 17, c'est des fontaines sans eau. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression qu'ils vont amener des choses extraordinaires, mais en fait, il n'y a pas d'eau. Hein? Spirituellement, on va avoir l'impression qu'ils ont une autorité tellement grande que nous, on se sent tout petit dans nos baskets. Pierre dit en fait, c'est des nuées qui chassent un tourbillon. Hein? Spirituellement, en fait, ils n'ont pas autant d'autorité qu'ils semblent. Même, ça sert à rien. Ils font tourner les choses en rond. Et quand vous allez écouter ces grands, soi-disant grands docteurs, grands apôtres, on a l'impression que vraiment on est à côté de la vision de ce que devrait être l'Église et que dans le combat spirituel on n'a aucune puissance. Vous rappelez la citation aussi que je vous avais faite, hein, que voilà, si on n'a pas un apôtre à nos côtés, en fait, on n'est rien.
Hein, ils font des beaux discours pleins de vide.
Voilà.
Bien ça.
C'est ça.
Ça veut dire que tu peux être quelqu'un qui a une aura, un parler extraordinaire, qui a rempli les foules, qui magnétise des foules, mais ça peut être une coquille, ça peut être une coquille vide. Quoi.
C'est ça.
On le voit aussi par des fois les discours qui sont tenus par des gens, moi juste une petite parenthèse, par des politiques, où ils te font un discours mais phénoménal pour accoucher d'une souris. Quoi. Rien du tout.
Yes, oui, Tam. Et puis au bout de 8 ans, je ne sais pas à quoi on est arrivé. Hein, en parlant d'Obama, c'était son slogan. Quand il s'est fait élire la première fois, yes we can, hein, oui nous pouvons. Et puis au final, on se demande ce qu'ils ont, ce qu'il a pu, si ce n'est qu'il a doublé la dette du pays des États-Unis. Bon, il a fait deux, trois choses bien, voilà, mais ouais, c'est des vendeurs de rêves. Hein. Et le danger, c'est qu'en fait, ça peut amener la division dans une église. Parce que certaines personnes voudront entrer dans ce nouveau courant, dans ce courant apostolique, dans cette grande révélation. Mais qui es-tu pour juger un homme de Dieu? Tu as de la rébellion, hein, parce que si on va se mettre peut-être un porte-à-faux, ou pas forcément même en opposition, mais en mettant en garde dans une église où peut-être certaines personnes voudront aller à tout prix dans cette direction, ben ça peut, et ça a déjà par le passé, mon Dieu, divisé des églises.
Hein. Des églises, ben. Mais souvent, par méconnaissance de la parole de Dieu, je suis convaincu, parce qu'autrement, il n'y aurait pas de division. Si on était tous vraiment dans la parole de Dieu, il n'y aurait pas de division dans une église, par rapport à la doctrine. Parce que bon, ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'on l'a dit aussi tout à l'heure, c'est qu'on peut avoir des points de vue divergents pour certaines choses, mais qui ne sont pas essentiels dans la doctrine, la doctrine du salut, etc. Et puis c'est pas ça qui va nous.
C'est ce qui est arrivé à Toronto.
Oui,
certains sont
à fond.
Voilà, à fond, parce qu'il n'y avait qu'à Toronto, puis tu ne pouvais pas avoir de bénédiction ailleurs que là. Alors ils allaient jusque là-bas, et puis.
Puis ça passait.
Et puis on l'avait vécu aussi à Poseux, ça. Voilà. Je pense aussi ici.
Oui, et partout, bien, on va chercher là-bas.
Ça a fait beaucoup de dégâts.
On est toujours un peu l'église, une partie de l'église charismatique, hein, que je dis voilà, en général. Hein. Il y a toujours un peu des fois cette recherche. Une fois encore, c'est un verset qui nous annonce aussi un jugement hein, sur ces hommes-là. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Hein. C'est terrible. Hein. Une fois encore, on voit que l'autorité de la parole de Dieu, on rigole pas avec ça. Parce qu'il y a des conséquences hein, si vous amenez... des divisions dans l'Église au nom d'une soi-disant vision ou réveil ou grande onction, parce que vous arrivez à chasser tous les mauvais esprits et puis que les disciples qui sont dans votre Église sont des bandes incapables. Hein. Mais c'est un peu ça, hein, des fois, malheureusement. Hein, et on va vous présenter les choses ainsi. Mais seulement attention, parce qu'à un moment donné, le jugement de Dieu, de toute façon, tombera aussi sur ces personnes-là.
C'est en premier l'Église qui est jugée. Il n'y a pas de condamnation, puisqu'on est en Christ, mais le jugement vient d'abord par l'Église.
Puis on peut aussi être étonné de voir des gens, justement, qui ont une intelligence qui dépasse toutes les intelligences, ou je ne sais pas quoi, mais de voir aussi l'aveuglement de ces gens-là, qui sont aveuglés. Ils sont aveuglés dans leur connaissance.
C'est ce qu'on avait dit avant. Croire en Dieu, c'est bien, mais croire ce que Dieu dit, c'est le principal. Et puis ces gens-là, ils croient en Dieu, mais en leur propre Dieu qui se sont fait. Et ils ne croient plus Dieu ce qu'il dit par sa parole. C'est la parole qui fait foi. Si tu sors de là, si ce n'est pas mis dans la parole, tu peux être sûr que tu es à côté. Alors c'est clair, ces gens super intelligents qui ont des dons exacerbés, humain, ou alors que l'ennemi profite justement pour se mettre en avant le moi.
Ça s'appelle le culte de la personnalité.
Voilà.
Le nombril. Le vrai mot, c'est ça.
L'orgueil.
Le culte de la personnalité.
C'est terrible que l'orgueil.
Et il y en a qui ont une belle élocution, qui savent bien s'imposer, et voilà.
C'est ça.
C'est pas un jugement contre les gens, mais c'est une constatation.
Ben oui, c'est ce mot.
Voilà.
On peut dire qu'on est, c'est vrai qu'il y a eu ces puisqu'on parlait, on parle de l'Église. Hein. Il y a eu effectivement beaucoup de divisions, autant du côté des des chrétiens évangéliques charismatiques et des autres. Hein. Mm-hmm. Il faut aussi, moi j'ai aussi connu plutôt des fondamentalistes, hein, plutôt des darbistes et autres, où il y a eu aussi des divisions entre eux. Donc voilà. Mais ce qu'on peut dire, merci Seigneur, c'est qu'on vit maintenant une période un peu de calme à ce niveau-là. Et puis les gens plutôt recherchent plutôt le Seigneur vraiment sans avoir des bagarres de doctrine à n'en plus finir.
Mais je pense que ça dépendra dans quelle église. Hein.
Ah ouais, peut-être aussi. Ouais. Ouais.
Parce que malheureusement, je pense que suivant
peut-être
où tu vas.
Un peu étroite.
non, mais je pense que suivant où tu vas, il peut y avoir encore des clashs. Hein.
Ouais. Quand l'homme est mis en avant, hein, ça c'est sûr. Hein.
C'est le culte de la personnalité. L'homme en avant, c'est quoi? C'est le culte de la personnalité. Hein. C'est ça. Mais nous, on l'a vécu aussi. On l'a eu vécu, hein, oui, ça. Hein.
C'est toujours la même chose.
Malheureusement. Ouais. Un peu eux aussi l'ont vécu aussi, hein, je pense.
Ouais, ouais. Oh, oui.
C'est dans l'air du temps. Hein. Alors, encore verset 18, là, 19, parce qu'on est toujours donc un peu dans les caractéristiques des faux docteurs. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Leurs discours sont remplis de vanité, hein. C'est ce qu'on disait avant, hein. Ils parlent pour rien dire, c'est du vent. Et puis, en fait, leur discours est là pour amorcer les convoitises de ceux qui les écoutent. Hein. Ça, c'est vraiment, j'en avais déjà parlé une fois, même dans le domaine prophétique, entre guillemets, si vous entendez une prophétie, parce que Dieu, voilà, on croit que Dieu peut encore nous donner une parole prophétique aujourd'hui, hein, directement inspirée par le Saint-Esprit. Un des critères de discernement, c'est est-ce que ça pousse à la convoitise, cette parole, hein? Parce que on a un frère qui nous a demandé un conseil dernièrement, hein, vous vous rappelez, vendredi saint. Alors, je ne sais pas, il y aurait quelqu'un qui aurait pu, par exemple, se lever dans l'assemblée. « Oh, mon frère, le Seigneur t'appelle pour cette grande mission. Va, lève-toi, l'Éternel des armées est avec toi. » Par exemple, hein, je dis comme ça. Bon, il n'y a personne qui a annoncé ces choses ainsi. Là, ça peut susciter de la convoitise chez le frère. Hein, parce que toi, tu en parlais quelque part, tu disais « Attention, parce que ça flatte l'ego. »
Exactement.
Et puis, je suis reconnu dans ma juste valeur.
Des gens qui disent, mais toi, il faut que tu t'es
un
leader. T'es un leader. Alors
ouais.
Là, effectivement, t'as l'ego qui grossit énormément. Ça, c'est clair.
Et ça, c'est un crible. Hein. Vous savez ce que c'est qu'un crible. Hein.
Oui, c'est ce qui passe à travers. Hein.
C'est que, par exemple, quand vous passez au crible des cailloux, vous avez un calibre, et puis ceux qui font, par exemple, vous avez un calibre de 30 mm, tout ce qui est en dessous de 30 mm va passer en dessous, puis ce qui est plus gros, ça reste en dessus. Alors ça c'est vraiment, pour pouvoir discerner, c'est un super bon conseil. Un enseignement, hein, là, dans le cadre là, on parle d'un enseignement, mais aussi d'une prophétie. Est-ce que en toi, ça suscite la convoitise, hein? Est-ce que l'enseignement que le docteur t'amène, est-ce que ça amène la convoitise, hein? Ah non, l'Église, elle est appelée à prendre position dans la nation. Elle n'est pas appelée à être la queue, mais la tête. Elle doit remplir sa fonction pleinement. On viendra vers vous parce que tellement vous êtes rempli de sagesse, on demandera conseil auprès de vous. On vous payera pour ça. Hein?
Voilà.
Et puis, hop, là, l'Église, tout à coup, elle prend la grosse tête. Et puis, il y a de forts risques qu'elle va glisser dans le compromis. Hein? Parce que l'Église, à son tour, va commencer à flatter, hein, pour pouvoir s'assurer une position dans la société. Aujourd'hui, honnêtement, il y a toute la question aussi, hein, qui se pose d'une reconnaissance par l'État, on en avait déjà parlé. Si vous voulez la reconnaissance de l'État, vous allez devoir flatter. Moi, je ne pense pas qu'en tenant vraiment un discours qui est engagé sur les Écritures de Dieu, vous allez avoir une reconnaissance de l'État. Honnêtement, je ne pense pas aujourd'hui. Vous allez arriver sur certains sujets, on va tout de suite vous tirer à boulet rouge.
Ouais. On peut le voir comme ça, mais on peut le voir aussi dans le sens où l'État cherche à mettre une mainmise sur les sur des églises. Donc, ils vont aussi, jouer le rôle de flatteur, hein, pour essayer de
au début,
non, c'est pas comme on a dit, mais les lois, ça sera comme ci, comme ça. Puis, résultat, t'es pris dans une toile d'araignée.
Parce que tu
dois justifier les comptes de l'Église. Ils ont une mainmise. Ils peuvent regarder tes comptes. Enfin, on n'en a rien à cacher. C'est pas ce que je veux dire, au contraire. Hein. Bien au contraire, on peut tout montrer, mais ça ne regarde pas la politique. On n'est pas dans, enfin voilà, je ne vais pas faire un coup là-dessus.
Mais, parce qu'ils pourront te dire, vous interprétez à votre manière. Dès que tu fais partie d'eux, tu es reconnu par eux, s'ils ne sont pas d'accord avec de la manière comme on pense, ils vont dire, vous interprétez à votre manière.
Tu peux extrapoler, comme dans les pays de l'Est ou les pays communistes, où tout à coup, ben, l'État, ils mettront des espions pour voir au moins le pasteur ce qu'il dit. Oui. S'il ne dit pas des choses contre le gouvernement, contre le canton de Neuchâtel, ou le seul petit mot, ça sera presque un peu comme les musulmans, là, le truc du blasphème, là, c'est un truc... qu'on utilise pour accuser n'importe qui de n'importe quoi, de rien du tout, etc. Quoi. Voilà.
Il pourrait dire, il ne faut pas choquer les musulmans quand vous priez, quand vous apportez votre message. Il ne faut pas choquer les hindous, parce que dans la politique générale, en règle générale, on tient compte de tout le monde.
On pourrait demander un procès à l'Église.
En plus, encore.
Accusé par la justice humaine. Quoi. Non, ça c'est sûr. Et ça, c'est revenir sur... Enfin, je m'excuse, parce que moi, c'est pas tellement le sujet.
Oui, parce qu'on parlait des convoitises, et puis qu'on voit bien qu'aujourd'hui, une partie de l'Église évangélique, alors là-dessus, on pourrait se diviser, parce qu'on voit bien que dans le cadre de la FEM, par exemple, il y a des tendances bien différentes. Bien sûr. Donc, si toi, tu es dans une Église où tu te dis « Ouh, attention, danger !» Et puis si d'autres disent « Ah non, c'est super, il faut sortir de notre grotte, on n'est plus les Cro-Magnons, il faut vivre avec son temps, le Seigneur nous ouvre des portes extraordinaires, il faut savoir qui c'est qui t'ouvre les portes. Hein. » on est dans ce sujet-là, parce que pourquoi certaines églises cherchent aussi à avoir une reconnaissance de l'État? Alors, comme tu dis, il y a l'État aussi qui cherche. Hein. C'est vrai que le jeu, il est à double sens. Hein. Mais il y a aussi aujourd'hui des docteurs, des apôtres qui poussent dans cette direction, qui vont donner des enseignements dans cette direction. Et qui va dire non à des deniers supplémentaires? Hein?
Qui
nécessaire. Hein? C'est vrai qu'aujourd'hui, tu dis, ah tiens, si tout d'un coup, c'est vrai qu'une partie des finances, puis qu'on va pouvoir faire des actes, comme on nous l'a annoncé, hein, au niveau de la FEM, qu'on va pouvoir faire des activités sociales, qu'on aura des fonds pour cela, pourquoi se refuser ça?
Mais quand tu vois que l'État est dans les chiffres rouges qu'ils ont encore annoncé, qu'ils avaient 30 millions de déficit cette année.
Si c'est pour mettre la main mise, ils veulent déjà lâcher quelque chose, t'as fait pas. Oui. C'est nous qu'on payera. Ils sont assez malins pour ça. Ouais. Quand ça donne leur intérêt, ils trouvent toutes sortes de trucs.
Alors ces gens-là vous promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de ce qu'ils sont. Hein, parce qu'ils sont esclaves de quoi? De leur orgueil, de leur vanité, de leur avidité. Ils n'auront peut-être pas un grand péché comme ça marqué sur leur front, hein, mais c'est leur attitude. À un moment donné, les principes de la morale chrétienne seront même ridiculisés chez eux, parce qu'ils vont appeler cela du légalisme, hein. Non, il faut quand même faut être un peu souple, voilà, il faut laisser un peu aller, qui sommes-nous pour juger notre frère, hein, vu qu'ils cherchent à être flattés, à être reconnus, ils vont aussi baisser les critères en général, pas tous, hein, mais certains de la sanctification. Et puis vu que c'est très centré sur soi-même, On va, par exemple, et aujourd'hui ça existe hein, dans des églises, on va vous proposer un système de coaching.
Donc, c'est, à la mode, ça.
C'est très à la mode. Coaching, ça alors le coup. Non, ça flatte l'ego. Ça veut dire que il y a quelqu'un qui va t'accompagner pour que tu puisses aller plus loin dans la vie. Il va être ton conseiller. Et puis, ce conseiller.
Comme si c'était un petit enfant qui n'avait pas encore vécu, quoi.
Ce conseiller, il aura par exemple un grand réseau, des contacts importants. Et puis, vu qu'il est déjà en lien avec plein de personnes, peut-être il va t'aider à certaines promotions et puis arriver à avoir une meilleure qualité de vie. Mais tout est placé sur l'ego. Hein. Et puis, en fait.
Coaching sportif, ça.
Voilà, aujourd'hui, c'est vrai, hein, on est dans du coaching sportif professionnel.
C'est beaucoup. Alors, je ne dis pas dans les professionnels.
Bon, ben, pourquoi pas, mais pouf, ça arrive dans l'église. Et que ça arrive dans l'église, il faut vraiment se demander si ça, c'est la pensée du Seigneur. Hein, parce que c'est un système après aussi de hiérarchisation. C'est-à-dire, bon, ben, toi, tu es coach niveau 1, toi, coach niveau 3, coach niveau 4. Tu dois passer des paliers quelque part. Que tu es coach niveau 4, ça veut dire que tu es coach sur une région. Je donne un exemple comme ça, comme ça. Pur hasard. Hein. Et puis, donc tu vas avoir plus de responsabilités. Puis, en fait, celui qui est coach numéro niveau 1, il aimerait être coach niveau 4. Hein. Donc,
puis après, tu deviens.
Et puis après, enfin voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, on aime beaucoup les formations sur le leadership aussi et blablabla.
Ça vient dans l'église.
Non, mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est la pensée du monde qui arrive dans l'église.
Ouais,
c'est
ça. Oui, mais c'est ça.
Mais prenez le centre de vie, par exemple, quand ils ont beaucoup de jeunes comme ça.
Oh non, c'est pas les églises.
Non, mais pour dire, pas pour dire leur système de fonctionnement avec les jeunes, c'est des coachs.
Ouais.
C'est eux qui les coachent. Ouais. Ou tous les enfants de divers âges pour pouvoir progresser, que ce soit dans la musique ou bien dans l'enseignement. C'est des coachs, hein, ça aussi.
Ce qui m'a aussi frappé, puis qui ne m'avait pas frappé avant, mais quelqu'un l'a dit, puis ça m'a fait tilt. Centre de vie, bon, ce n'est pas pour critiquer du tout, hein, parce qu'il y a des chrétiens magnifiques et tout, ce n'est pas du tout ça. Mais pourquoi on change le nom d'église en centre de vie?
Ouais, c'était moi.
C'est toi qui m'as dit ça.
C'était moi.
Ouais, moi, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, pourquoi?
Pourquoi
c'est
pas
pour
mais,
c'est pour un petit peu que les gens viennent, tiens, voilà. Centre de vie.
Jésus, c'est la vie. Quoi.
Mais ce n'est pas l'église. Quoi.
Non,
c'est
un centre de vie.
Non, parce que c'est comme
ça. Ça sonne mieux, centre.
C'est comme chez certains, vous parlez du terme évangélisation, ils ont déjà l'urticaire.
Ouais.
Il faut parler autrement parce qu'on est c'est une connotation trop négative, hein. Voilà, il y a un nouveau langage dans ces milieux-là, mais c'est un langage en fait. Quand vous avez le langage biblique, quand vous regardez un peu bizarre.
On est des dinosaures.
Moi, je me rappelle quelqu'un qui me dit « Ah, mais ta façon d'exprimer, ouais, c'est particulier, mais c'est un peu moqueur. Hein, » Pour dire que, parce que vu que j'utilisais des termes bibliques.
Pas de canard. Hein.
Ouais, non, mais
c'est vrai qu'il y a un danger qui nous guette aussi, les chrétiens, c'est justement, comme tu dis, c'est tomber dans le patois de canard. c'est vrai. Des personnes qui n'ont aucune connaissance
c'est
de la parole
sûr.
De Dieu, puis tu les évangélises, tu commences à leur donner des explications très très intellectuelles, enfin très très bibliques, mais qui sont canaan, enfin c'est partout, personne ne peut comprendre.
C'est sûr, mais là
celui qui est de nouveau qui le comprend, voilà.
Mais là c'était, là je parlais avec quelqu'un qui était engagé dans la foi. Voilà. Donc voilà, ce sera du coaching, hein, très tourné sur soi, afin d'avoir plus de réussite, plus d'influence, soi-disant dans votre vie. Et puis là, je notais attention donc à tous ces enseignements sur le développement personnel, très à la mode le développement personnel aujourd'hui dans la société. Et puis on voit qu'en fait ça rentre dans l'église, développement personnel, hein, qui mettrait de côté la mort à soi-même, le renoncement, le fait de porter le déshonneur du Christ sur cette terre. Hein. Vous serez haï, a dit Jésus. Alors, on ne va pas chercher à être haï pour être haï.
Ça vient tout seul.
C'est ça.
Ça vient tout seul.
Il n'y a pas besoin de chercher.
Mais vous savez, ça peut être difficile pour quelqu'un qui se trouve dans ce genre d'enseignement et puis en fait qui n'y arrive pas. Alors il sera regardé vraiment comme le dernier des perdants. Ah non, mais quand même, maintenant tu as un coach qui te suit niveau 3, tu devrais quand même percer dans ta vie, tu n'as pas encore ceci, tu n'as pas encore cela, tu n'as pas encore atteint ça. Ouais, écoute.
Tu as fait ce premier module, mais il faut faire le deuxième module.
Ça fait penser à l'église.
Il faut payer. Chaque fois, il faut payer hein, pour les modules, hein, c'est pas gratuit.
Ils ont, comme ceux qui sont de celle-là, je ne sais plus le nom de l'église. Il y a ces grands acteurs qui font
pas. Ah, scientologie.
Oui, la scientologie, c'est ça. Ils ont aussi des niveaux, des paliers à passer. Puis ils doivent payer pour. En plus, ils doivent payer. La scientologie, c'est comme ça.
Mais on retrouve des fois un peu ce genre, alors à moins à l'extrême, bien sûr, mais on retrouve des fois ce genre de fonctionnement dans certaines églises. Et c'est triste, hein. Et puis peut-être quelqu'un, peut-être vous serez suivi par un coach niveau 3, et puis vu que tu n'y arrives pas, bah, le coach niveau 3 va dire, mais écoute, je ne peux plus te suivre, hein, parce que moi, j'ai besoin d'impacter, d'influencer les gens plus engagés que toi. Il faut, voilà, je suis désolé, t'es pas arrivé à ce stade-là.
T'es à la traîne.
Mais honnêtement, hein, moi, je vois des chrétiens qui aujourd'hui vivent très mal, parce qu'ils ont une vision déformée de ce qu'est l'évangile et de ce qu'est la foi chrétienne. Et puis, ils ont l'impression qu'ils vivent galère sur galère. Oui, mais voilà, la vie chrétienne, elle est faite aussi de temps difficiles. Bien sûr, pas que de ça. Mais suivant où la personne, elle place ses attentes par rapport à sa foi chrétienne, et puis par rapport à ces choses où peut-être on est venu te flatter, hein, où on a démarré en toi des choses de convoitise, et puis que vu que tu n'y arrives pas, tu n'arrives pas à atteindre ces zones-là qu'on t'a promis, eh ben, ça peut mettre vraiment des gens sous une pression terrible, hein, et puis sous une
dépression,
burn-out, quelque part on peut dire aussi, il y a des gens qui ont des burn-out spirituels, hein.
Dans l'église, on peut aussi voir qu'il y a des gens qui ont besoin d'être mis en valeur.
Mm-hmm.
Justement, en disant, ben voilà, tu t'es bien, ou ceci ou cela.
Mais ça, c'est pas forcément une mauvaise chose.
Oui, non, mais c'est dans un cas particulier. Je parle de, par exemple, dirigeants d'église, ou de conseils, ou de choses. On a vécu ça avec notamment une personne, on va pas citer le nom, mais ça fait sourire Georges. Mais c'était ça. Une personne qui participait pas vraiment au niveau du conseil ou qui n'était pas vraiment engagée, mais par contre, il avait besoin d'être mis en valeur pour être là et puis de discourir, mais sans qu'il y ait vraiment un engagement.
Il y avait voilà, aucun engagement.
C'est dans ce sens-là que je vous l'ai dit. Mm-hmm. Hein, c'est pas du tout
autre. Il y en a qui aimaient reconnu. Ouais.
Être reconnu, mais dans un mauvais sens du terme. Hein.
C'est ouais,
oui, c'est vrai d'être connu. On a tous besoin d'être connu.
Une terminologie,
ça c'est sûr. Mais,
dans la flatterie, ce serait la flatterie.
Dans un poste, j'entends. Ou dans une fonction, voilà, plutôt.
Ce serait la flatterie. La personne qui a besoin d'être flattée.
Voilà.
Mm-hmm. Hein, c'est pas de l'encouragement. Ça va plus loin que ça, en fait. C'est là qu'il nous faut aussi le discernement du Seigneur.
Mm-hmm.
Parce qu'on doit s'encourager les uns les autres, hein, ça c'est sûr. Mais la flatterie, c'est de la manipulation. Parce qu'on va venir dire des choses positives sur toi, mais pourquoi? Pour que peut-être tu serves la vision de l'apôtre.
Mm-hmm. Hein?
Et puis tu deviens esclave d'un système au lieu d'être esclave du Christ.
Mm-hmm.
Et puis tu vas... C'est typique des sectes. Hein? Où les sectes, les gens vont jurer fidélité à un système complètement dysfonctionnel, mais vu qu'ils ont juré fidélité, ben ils vont s'y engager. Et certains c'est jusqu'à la mort. Hein. Il y a des manipulateurs. Hein. Ouais. Enfin voilà, on peut s'arrêter là. Et puis comme ça on pourra finir le chapitre. Le chapitre 3.
On vient de finir.
On n'a pas
fini. Il restait deux.
Il restera trois versets.
Trois versets.
20 à 22,
Pierre, on est arrivé au 8 du 3.
Ouais, je m'excuse. Je m'excuse.
On a des tels là.
On a décroché en tout cas le chapitre 3.
Ouais. Non, mais parce que c'est vrai que c'est tellement d'actualité. Hein, et puis c'est enrichissant. Hein,
oui, on est en plein dans le sujet.
Et puis vous verrez comme ces trois chapitres, ils sont très très bien structurés. On en parlera peut-être un peu la prochaine fois. C'est vraiment... Pierre, il n'a pas fait les choses comme ça, au petit bonheur, la petite chose, mais voilà, vraiment inspiré par le Saint-Esprit. Alors, je vais...